Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI et surtout des femmes dans le football ce week-end. Des éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations sont au programme ces jours-ci après tout. Alors pour quelle CAN me direz-vous ? Celle du Maroc, effectivement. Celle de 2024 donc, qui n'a toujours pas eu lieu alors qu'on est déjà en 2025. Eh bien non, ce sont les éliminatoires de celle de 2026 qui aura lieu au Maroc, comme celle de 2024. Dont on a déjà joué les éliminatoires, mais qui n'a toujours pas eu lieu alors que nous sommes déjà en 2025. Vous suivez ? Bon, d'accord, ce n'est pas très simple. Et ce n'est pas forcément une très bonne publicité pour le football féminin en Afrique que ce calendrier est très compliqué. Le football féminin en Afrique, qui mérite mieux. Après tout, lors du dernier mondial, 3 représentants du continent avaient atteint les 8e de finale, une performance inédite, hommes et femmes confondus. Le sélectionneur vainqueur de ce mondial 2023, justement, est désormais sur le banc du Maroc. On en reparle, pays parmi les plus ambitieux et pas seulement au niveau africain. Sur le continent, le Nigeria n'est plus seul au monde, en tout cas seul en Afrique, puisque c'est l'Afrique du Sud qui est championne en titre, à l'issue également d'une progression spectaculaire. D'autres pays émergent, s'affirment, tandis que d'anciens bons élèves doivent se relancer et gérer une nouvelle concurrence. Bref, si le calendrier n'est pas des plus simples, au moins Mondial Sport est là ce dimanche pour éclaircir la situation du football africain au féminin.
Bonjour Hugo, bonjour à toute la dynamique équipe de Mondial Sport. Je suis Amie de Boaké, Côte d'Ivoire. OBV toujours orange, blanc, vert et force à mon équipe. Les éléphantes, non, il n'y a rien en face. Allons-y, ramenez-nous la coupe. Les garçons l'ont déjà fait. Nous sommes à 3 étoiles. Oui, les filles, vous pouvez. Et vous avez toute la force de toute cette population derrière vous. C'est vrai qu'on supporte aussi toutes les équipes, je les envoie que des ondes positives, mais d'abord, OBV, orange, blanc, vert. On attend ce coup de marteau. Bang, 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 bang.
Une supportrice ivoirienne interrogée par Assetou Samaké, la tête pensante de Mondial Sport, qu'on remercie et qu'on salue, une supportrice ivoirienne qui rêve de voir les éléphantes imiter les éléphants, devenir championnes d'Afrique. Ce ne sera pas pour l'été prochain, l'été 2025, et donc la CAN 2024, j'espère que vous suivez toujours, au Maroc. Mais qui sait, l'opportunité se présentera peut-être pour les éléphantes en 2026, de nouveau au Maroc. Nous sommes en pleine période d'éliminatoire, avec des matchs notamment ce week-end. La Côte d'Ivoire va nous servir de fil rouge, pourquoi ? Parce que le pays, un temps émergent en foot féminin en Afrique, troisième de la CAN, mondialiste il y a 10 ans, eh bien un peu reculé dans la hiérarchie, la preuve que ça bouge, et ça bouge vite du côté des femmes footballeuses sur le continent. Bonjour Karim Baldé.
Bonjour Hugo, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Notre consultant fidèle au poste dans Mondial Sport En Afrique de l'Ouest, d'autres pays sont passés devant la Côte d'Ivoire, le Sénégal par exemple, dont on va également beaucoup parler aujourd'hui. Bonjour Mamoussa Cissé.
Bonjour Hugo.
Vous êtes le sélectionneur des Lions de la Teranga, qui justement, vous me dites si je me trompe, affronteront les Ivoiriennes en octobre prochain pour tenter vous aussi de valider le billet pour la CAN 2026. C'est ça, parce qu'en fait vous deviez affronter le Tchad, c'est ça, ce week-end, et puis le Tchad a déclaré forfait, et vous irez directement au deuxième tour de qualification pour la CAN 2026 contre les Ivoiriennes.
Vous avez parfaitement tout compris. Effectivement, on devait jouer 2 matchs contre le Tchad cette semaine. Un premier match à Abidjan le 21 et le match retour au Sénégal. Mais entre-temps, le Tchad a déclaré forfait. Et donc, nous, on est qualifiés directement. Et entre le 20 et le 30 octobre 2025, donc juste après la CAN, nous rencontrerons la Côte d'Ivoire pour le ticket qui va permettre à l'une des équipes, et ce sera probablement le Sénégal, pour cette CAN.
Bah oui, en toute objectivité, vous pensez que le Sénégal va se qualifier. C'est un peu votre job, si je puis dire, de vous assurer de cela. On entendra tout de même Par souci d'équité, votre homologue et futur adversaire ivoirien, un grand nom, Reynald Pedros, le nouveau coach des éléphantes ivoiriennes. On l'entendra un peu plus tard dans l'émission. En attendant, les Sénégalais, les Sénégalaises, vous êtes qualifiés pour la CAN qui arrive, donc celle de 2024 en 2025. La deuxième de rang pour un Sénégal qui structure son football et qui pourrait accueillir une nouvelle gardienne bientôt en la personne de Tigida Diaby, qui était également avec nous. Bonjour Tigida.
Bonjour Hugo.
Alors vous êtes une joueuse formée au Paris Saint-Germain, vous m'arrêtez si je me trompe, vous évoluez en ce moment en première division luxembourgeoise et vous êtes en discussion, alors vous êtes née en France, vous avez également la nationalité malienne, vous êtes en discussion pour rejoindre la tanière sénégalaise, c'est ça?
C'est ça.
Et alors vous avez aussi porté les couleurs du Mali?
Oui.
On peut, c'est facile en football féminin comme ça de passer d'une sélection à une autre. C'était en match officiel que vous aviez porté les couleurs du Mali?
Alors non, c'est pas forcément facile ou en tout cas compliqué. Du coup, moi, j'ai porté les couleurs du Mali durant 2 années. Ça n'a jamais été sur des matchs officiels, ça a été sur des matchs officiels pour la qualification à la Coupe d'Afrique.
D'accord.
Mais je n'ai jamais participé du coup à une Coupe d'Afrique officiellement avec le Mali.
Et d'ailleurs, je crois savoir que c'est le Sénégal qui vous avait barré la route avant la CAN 2022, c'est ça?
C'est
donc,
ça.
Donc vous rejoignez. Alors évidemment pas l'ennemi parce que vous avez justement plusieurs cordes à votre arc identitaire et ça c'est une richesse et il n'y a pas d'inimitié qui tienne en la matière. Mam Moussa Cissé, ça vous va si je dis que le Sénégal est le bon élève francophone actuellement en Afrique de l'Ouest concernant le football féminin, c'est vous, chez les francophones, les meilleurs pour l'instant?
Bon, on est en train de grandir dans notre football. Nous avons commencé le football féminin au Sénégal, pour parler un peu d'histoire, avec notre sélection nationale en 2002. Et de 2002 à 2012, on n'a jamais participé à une CAN. Donc notre première Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2012. Et après, on a eu une traversée du désert. Donc moi, quand je suis revenu en 2019, l'objectif du Sénégal, c'était de revenir à la CAN, surtout à la CAN 2022. C'est ce que nous avons pu faire. On a travaillé avec un groupe de jeunes joueuses ici au Sénégal. Je me rappelle que quand on commençait, on n'avait qu'une seule joueuse, parmi les joueuses qui sont là, une seule joueuse qui venait de France, c'était Mama Diop, qui était en lance en ce moment-là. Et donc, toutes les autres joueuses étaient là. Mais après, on a joué le tournoi de l'IFOA. Et là, pour la première fois, nous avons battu le Mali qui revenait de la Coupe d'Afrique. Et les gens se sont dit, bon, tiens, quand même, il y a du potentiel. Et qu'en travaillant, on pouvait avoir quelque chose. Et donc, on a mis les bouchées doubles. On a travaillé sur un processus avec vraiment des orientations bien claires. Il fallait repartir à la CAN. Et à cette CAN-là, nous avons fait nos premières armes. On était allés pour apprendre. C'est là qu'on a marqué notre premier but en CAN, c'est là où on a eu notre première victoire en CAN.
Donc ça, c'est 2022 au Maroc, et vous avez atteint les quarts de finale. Meilleur résultat de votre histoire.
Et on a été éliminé par la Zambie en quart de finale. Et dans la foulée, on a eu l'opportunité de jouer les barrages de la Coupe du Monde, parce qu'on a éliminé la Tunisie. Et nous avons joué les barrages de la Coupe du Monde. À partir de ce moment, maintenant, l'objectif, c'était d'être constant, de participer le plus possible aux compétitions africaines et internationales. Et c'est dans cette foulée-là qu'on a continué à travailler. Et on s'est qualifié pour la deuxième fois à la CAN qui va arriver. Et donc, vous le voyez, un des objectifs que nous avons, c'est d'être constant dans la compétition de haut niveau. Parce que pour nous, c'est seulement cela qui va nous permettre de progresser dans le haut niveau.
Tigida Diaby, vous avez porté les couleurs du Mali qui avait bien figuré à la CAN en 2018, donc qui peut-être avait de l'avance il y a quelques années par rapport au Sénégal. Vous avez pu vous rendre au Sénégal, comparer un petit peu ce qui se fait au niveau du football féminin entre le Mali et le Sénégal, et vous êtes rassuré par le discours du coach et l'évolution du football féminin au Sénégal, probablement votre futur pays en termes de sélection?
Alors, pardon, mais si vous pouvez juste recommencer la question, c'est un petit peu long que j'ai retenu que la moitié.
Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous qui avez connu le football féminin au Mali, vous avez l'impression que le Sénégal est encore un cran au-dessus?
Alors, en tout cas, moi, pour ma part, en ayant connu quand même les deux, parce que j'ai joué pour le Mali, mais je suis d'origine de base à 100% sénégalaise, donc je m'y rends beaucoup au pays et j'ai tendance à beaucoup suivre le football sénégalais. Bah pour moi, en fait, les deux nations évoluent correctement, mais je trouve que le Sénégal a une petite marge au-dessus, que ce soit en fait par rapport à des critères physiques, des critères athlétiques, qui font que en fait ils arrivent à prendre une petite devanture sur le Mali à l'heure actuelle.
Donc vous pensez être en train de faire le bon choix si je vous suis bien. Et Karim Baldé, qu'est-ce oui. que ça vous inspire le Sénégal, le Mali peut-être qu'on peut peut-être élargir le sujet mm-hmm. et rappeler aux auditeurs que malheureusement le football d'Afrique subsaharienne francophone, au niveau du foot féminin, c'est pas forcément ce qui marche le mieux à l'échelle continentale.
Effectivement, à l'exception notable du Cameroun, qui est l'un
qui
des...
Et qui est en perte de vitesse également,
mais ça a été pendant longtemps le seul pays d'Afrique francophone vraiment visible sur la scène continentale. C'est vrai qu'il y a cette volonté de rattrapage, et là on l'a entendu dans les propos à l'instant, de rattrapage par rapport aux nations phares du football féminin africain, le Nigeria, l'Afrique du Sud... Et puis, dans une moindre mesure, la Zambie. On voit des efforts qui sont faits, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu plus lent. Et on parlait de constance, et ça, c'est important. La CAN s'est élargie aujourd'hui à 12 équipes. En tout cas, ce sera le cas avec le nouveau format pour la CAN au Maroc. Donc, ça va permettre peut-être aussi à plus de nations d'accéder à ces spots de grandes compétitions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grandes compétitions de football féminin en Afrique. Il y a bien sûr une volonté. Il y a la Ligue des Champions qui a été créée par la CAF récemment. Mais voilà, ça manque de grosses compétitions pour toutes ces joueuses et toutes ces équipes nationales. Donc, la constance, c'est vraiment important. Et d'un tout petit mot, par rapport au côté binational, etc. C'est intéressant ce qui a été dit parce que nous, dans le cadre d'un travail qu'on a mené avec des étudiants, on a interrogé Chloé Ngazi, qui est une gardienne qui joue à l'OM aujourd'hui. Et elle est française, algérienne et comorienne. Donc elle avait plusieurs choix possibles. Et finalement, elle a décidé de jouer pour l'Algérie parce que l'Algérie aussi est un pays émergent, d'ailleurs, du football féminin en Afrique. Et c'est le projet qui l'a vraiment convaincue. Et ça, on voit comme un football masculin pour les binationaux. Là aussi, il y a de plus en plus de projets qui se créent au Maghreb et en Afrique subsaharienne également, et c'est là où on va voir un peu justement qui va tenir la corde et qui va réussir à attirer les marrons du feu pour profiter de cette future hype, on l'espère, autour du foot féminin.
Mamoussa Cissé, attirer des binationales, c'est une partie du projet, l'autre partie étant, j'imagine, de structurer au niveau local. Je sais par exemple que le Sénégal essaie de créer des catégories d'âge dans le football féminin pour qu'il y ait une progression constante à différents âges des joueuses. Donc on est un peu sur ces deux éléments, et attirer une Tigida Diaby, par exemple, ça fait partie aussi du projet, aller chercher au niveau des binationales, de la diaspora ou de joueuses qui n'ont pas encore porté votre maillot et qui évoluent sur d'autres continents.
Oui, c'est un projet global, hein. C'est un processus sur lequel nous sommes en train de travailler et de manière très très sérieuse avec la Fédération sénégalaise de football. Parce qu'après la CAN, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de nos joueurs sont partis en France, en Turquie. On a une jeune joueuse qui joue actuellement à Galatasaray. Certaines sont parties à Marseille, à Clermont-Ferrand. Donc il y a une vague de filles qui partent. En même temps, il y a eu, comme vous le dites, une restructuration du championnat. On a un championnat à deux niveaux, un championnat de première division et un championnat de deuxième division. Et en même temps, il y a eu la mise sur pied des catégories U15, U17, U20 pour créer les viviers par rapport à la sélection A. Et là, c'est le groupe que nous avons actuellement qui est en regroupement, parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu ces deux matchs-là, nous avons tenu à faire le rassemblement et nous avons beaucoup de joueuses U17 et U20 qui tapent à la porte. Maintenant, l'autre aspect, c'était de voir, comme vous le dites, les binationales. Et l'année dernière, je pense, à pareil moment, j'ai fait une tournée en France, déjà pour voir les joueuses qui sont parties d'ici, pour voir dans quelles conditions elles sont, pour voir comment elles travaillent, parce qu'elles ont gravi un pas qualitatif. Et il fallait que nous, au niveau de notre organisation et de nos structurations, qu'on suive cela. Sinon, il y aurait deux vitesses dans le football et ce serait catastrophique pour la sélection. Et c'est dans ce cadre-là que je suis allé voir Tigida Diaby. J'ai regardé un de ses matchs à Saint-Denis. Et c'est une fille qui est dans nos plans aujourd'hui. Nous l'avons sur notre shortlist. Et comme je lui ai dit la dernière fois, après, c'est une question de timing. parce que elle est dans un cadre d'un projet global. Il faut voir les choses de manière holistique. Et aujourd'hui, elle y est, et qu'elle continue à travailler. Et au moment où elle devra venir, elle viendra dans la sélection, parce que nous avons cette volonté-là d'aller attirer d'autres filles qui sont nées aux États-Unis. Il y en a eu deux qui sont venues, et il y en a qui sont nées en France et qui ont accepté de jouer. Il y a d'autres qu'on a perdues en cours de route, mais il faut qu'on y aille de plus pour tôt possible, quand elles vont être en U15, pour pouvoir les dénicher et déjà leur offrir l'opportunité de venir jouer au Sénégal. Parce que le discours que les parents nous tenaient, on ne nous a jamais contactés, on n'a jamais eu de contact direct avec le Sénégal. Mais maintenant que c'est fait, les gens commencent à s'intéresser et on a même des appels, des personnes qui disent « nous voulons jouer pour le Sénégal ». Et ça, je pense que c'est très, très important pour la suite.
Mondial Sport sur RFI, événement à suivre, hein, les mots du président de l'Union Cycliste Internationale tout à l'heure, David Lapartien, alors qu'un nouveau tour du Rwanda vient de débuter, l'entretien réalisé par Thomas de Saint-Léger, écouté dans Mondial Sport. En attendant, notre thème du jour, le foot féminin en Afrique est à des lieux, on va écouter une joueuse ivoirienne de club, on a Tigida Diaby qui est au niveau international, on va écouter cette fois une joueuse ivoirienne, on va dire plus... pas dire lambda, c'est pas méchant, une joueuse très expérimentée, Salimata Dosso, 39 ans, elle évolue au sein d'Ange FC, c'est un club d'Abidjan, elle répond aux questions de Yoann Gourly.
Est-ce que c'est facile d'être une joueuse aujourd'hui dans le championnat ivoirien? Est-ce que les conditions sont bonnes?
Non, c'est pas facile. Moi particulièrement, ça fait maintenant 20 ans ou 25 ans que je joue le championnat. Voilà, et donc les conditions sont vraiment difficiles. Vous pouvez le voir, on vient de jouer un match du championnat à 10 heures avec le soleil. L'état du terrain, le synthétique, sur les crampons, ça chauffe, ça donne des douleurs au niveau des pieds. Donc les conditions sont un peu difficiles. Bon, il faudrait qu'on songe maintenant à améliorer les conditions des joueuses au niveau des primes de match, au niveau des salaires. Et pourquoi pas changer le statut même du championnat ivoirien, parce qu'il est au statut d'amateur. Et qui dit amateur, les conditions ne seront pas vraiment réunies. Donc, il faudrait passer maintenant au stade de semi-professionnel à professionnel, de sorte que ces joueuses-là puissent être dans les conditions qu'il faut pour pouvoir évoluer encore mieux.
C'est quoi le quotidien d'une joueuse justement de football féminin en Côte d'Ivoire? Je pense à l'entraînement, je pense à au transport. Voilà. Est-ce que tout ça c'est encore très lourd, très, très compliqué?
C'est très lourd. Donc je vous donne d'abord mon expérience à moi. Moi j'habite Yopougon, en Anéré. Je m'entraîne à Pobre et Gonzac, Terre Rouge, sur la route de Bassam. Et figurez-vous que ceci, j'ai un entraînement à 9h. Je dois me réveiller à 5h du matin en pointant le Baka de chez moi pour descendre à Adjamé. À Adjamé, lutter le Baka encore pour venir jusqu'à Gonzac, et puis à Gonzac m'entraîner. Et je refais encore le même circuit encore pour revenir. Malheureusement, les conditions sont encore plus difficiles, vu qu'au niveau de Akwaba, au niveau de Grand Carrefour de Kumasi, il y a les travaux pour la voirie qui sont en train d'être faits. Et donc, c'est éprouvant. Il n'y a pas de cas à notre disposition. Donc, chacune est livrée à elle-même pour pouvoir venir à l'entraînement.
Et qu'est-ce qui vous donne envie de continuer?
La passion, l'amour du football. Et aussi, lorsqu'on se dit qu'on n'a que ça, pour certaines, moi particulièrement, ce n'est pas vraiment le football, puisque je suis diplômée, j'ai un diplôme d'ingénieur en mine pétrole et gaz. Voilà, je suis maman de deux enfants. Voilà, donc ce n'est pas passion pour moi, mais pour d'autres qui vivent effectivement du football, uniquement du football, je trouve que ce sera vraiment difficile pour elles de pouvoir s'en sortir.
Vous dites que ça fait 20-25 ans, est-ce qu'il y a une petite évolution? Est-ce que par exemple le fait que les éléphants aient gagné la CAN, il y a eu un peu plus d'argent, là on voit qu'il y a un nouveau sélectionneur, est-ce qu'il y a des petites avancées?
Oui, et je tiens à remercier aussi la fédération, parce que comme on le dit, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Moi, quand je commençais avant, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas de prime de maths qui dépassait déjà les 10 000 francs. Mais maintenant, on a un salaire. C'est vrai que ce n'est pas le SMIC, ce n'est pas le salaire minimum, mais il y a au moins quelque chose qui est donné aux filles à la fin du mois. Il y a aussi la prime de maths qui a nettement évolué, qui est passée. Moi, mon temps, c'était à 2 000, maintenant à 10 000 francs. Voilà, il y a certains clubs qui ont plus de moyens, qui font plus. Voilà, donc il faut noter qu'avec l'arrivée du nouveau président, il y a eu une évolution au niveau même de la subvention qui est passée de 2 millions à 10 millions. Ça a félicité. Et on espère qu'elle passera de 10 millions à 20 millions encore. Pourquoi pas? Voilà, cela est possible. Puisque maintenant, la Côte d'Ivoire est tenante du titre. Et on espère qu'on va battre encore les équipes au Maroc pour être champion encore. Être champion pour la quatrième fois. Et puis, pourquoi pas développer notre football féminin avec ces moyens-là.
Est-ce que vous avez vous voulez profiter de ce micro pour faire un appel ou pas?
De quitter le stade amateur. Parce que tant qu'on sera amateur, le football ne pourra pas progresser. Voilà, donc sur le développement de la Fédération ivoirienne de football, la Commission de football féminin, vraiment songe à pouvoir professionnaliser le football. Voilà, donc quand on dit professionnaliser, c'est sûr qu'on ne va plus s'entraîner dans le sable, on ne fera plus des distances de 5h du matin à 9h pour venir à l'entraînement. Il y aura un cas peut-être pour le club, il y aura les conditions pour que les filles puissent s'entraîner sur des terrains comme il se doit. Et puis on pourra jouer le match à des heures vraiment adéquates. Parce que jouer un match à 10h, c'est éprouvant avec le soleil, les chaussures, les crampons. Vraiment, c'est éprouvant.
Le témoignage de Salimata Dosso, joueuse du championnat ivoirien au Sénégal. Qu'en pense, et on va vous libérer juste après, Mamoussa Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga. Donc une autre réalité ouest-africaine du terrain. Voilà, le foot féminin en Afrique de l'Ouest doit aussi penser à ces footballeuses du quotidien, dont le quotidien justement est difficile, on l'a entendu.
Oui, mais parfaitement. Bon, je vais parler de beaucoup d'avancées, mais il y a encore un chantier et les gens sont en train de travailler pour essayer d'amener le football féminin au niveau du football masculin. Aujourd'hui, les jeunes garçons ici, ils sont dans les académies, ils ont une formation dans un club. Jusqu'à présent, ça manque des académies féminines, au niveau des conditions de travail, c'est encore difficile. Il y a l'accompagnement de la fédération pour doter les filles de formation, d'encadrement, mais on est conscient qu'il y a encore un gap à avoir, parce que nos joueuses aujourd'hui qui sont parties en Europe, quand elles reviennent, elles doivent tirer aussi bien la sélection que les clubs vers le haut. C'est ça l'objectif, parce qu'ils vivent un autre environnement, d'autres réalités, et il faudrait que cela puisse, sans faire du copier-coller, avoir un impact qui soit spécifique à nos besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, on y travaille. C'est un long chantier. Il faudra continuer à se battre. Et voilà, c'est pourquoi on vous remercie, parce que de telles émissions, de telles initiatives, permettent aujourd'hui de parler de ce dont on ne parlait pas il y a longtemps. Aujourd'hui, les parents commencent à accepter que leurs filles aillent jouer au football, parce qu'avant, avec tout ce qu'il y avait comme préjugés, tout ce qu'il y avait comme barrière sur le plan culturel et sociétal, il y avait d'énormes problèmes pour que les parents acceptent que leurs filles aillent jouer. Mais aujourd'hui, ces barrières sont en train de se lever lentement mais sûrement. Et nul doute que dans un futur proche ou à moyen terme, on pourrait avoir des améliorations au niveau africain. Parce que le football, les filles aiment le football et il faudrait les accompagner à faire leur passion comme il se doit.
Merci beaucoup Mamoussa Cissé, sélectionneur du Sénégal, d'avoir été avec nous. On donnera un peu plus la parole évidemment à Tigida Diaby et à Karim Baldé qui sont également avec nous. Vous aviez un temps plus limité, donc on vous a donné la priorité et on vous souhaite bon vent pour ce rassemblement international et puis bon courage pour les prochaines échéances des Lions de la Teranga. Le foot féminin dans Mondial Sport, mais pas que, on va passer à l'actualité la plus actuelle.
RFI Mondial Sport.
La machine a remonté le temps pour ceux qui suivaient RFI pendant les Jeux Olympiques. Un certain Saliou Scottie-Pippen Diouf nous a rejoint. Bonjour Saliou.
Quel plaisir, vraiment quel plaisir. Monsieur Michael Jordan, Hugo Moissonnier.
Le foot en France, trois matchs en cours.
Oui, trois matchs en cours avec Le Havre, 17e qui reçoit Toulouse, 10e. Et ce sont les Toulousains qui mènent grâce à un but africain. C'est Abouklal qui a ouvert le score il y a quelques minutes. Pas encore de but sur les autres rencontres. Montpellier, bon dernier, se déplace à Nice et fait 0-0. Et Strasbourg, 7e, qui est l'équipe en forme du championnat, vous savez, avec l'entraîneur qui ressemble à Memphis Depay, Liam Rossignol, qui a un sacré style, qui reçoit Brest d'Éric Roy, 9e, ça fait toujours 0-0. Et il y a quelques minutes, Nantes a battu Lens à domicile, 3-1. Il faudra surveiller Lens parce que les défaites s'enchaînent et l'effectif s'est affaibli et ça pourrait avoir de conséquences.
La crise dans le Nord, peut-être. Encore un peu plus au Nord, l'Angleterre. Des buts ?
Oui, une pluie de buts à St James Park. Victoire des Magpies, 5e au classement contre Nottingham Forest. 4 buts à 3. Il n'y a plus que 3 points entre les deux équipes au classement. Et là, il y a un choc qui joue en ce moment même, les amis. Un choc entre Manchester City.
Un peu moins choc cette saison.
Un peu moins choc, mais quand même, ça a toujours cette petite attractivité. On a quand même cette petite sensation quand ça commence.
Et donc City qui reçoit Liverpool. Ouais.
Et on a un duel de pharaons, messieurs. Marmouche contre Salah. Les deux sont titulaires et ça fait tout pour l'instant 0-0.
Ah oui, bon, petit pétard mouillé quand même, je vous l'avais dit.
On devait commencer.
L'Espagne, la Liga, salut Diouf.
Et le Real Madrid mène un but à zéro face à Gérone. Kylian Mbappé est titulaire. Mais c'est pas lui le buteur.
Ah, ça change, ça.
Ouais, Luka Modric, l'ancien, qui a marqué et qui permet à son équipe de mener au score.
Le rugby, avant de se quitter,
oui.
Salut.
Et l'équipe de France qui se venge de sa défaite contre l'Angleterre. Les Italiens résistent, mais c'est pas suffisant parce que oui, c'est un choc entre l'Italie et la France. Ça se joue à Rome dans le cadre du tournoi des Six Nations. Et les Bleus ont pris le large en deuxième mi-temps. Le score, pour l'instant, ça fait 61 à 24.
Et ça n'étonne à mon avis pas Karim Baldé, le spécialiste rugby, qu'il est devant l'éternel. Ça va vous intéresser aussi, Karim, la 17e édition. Merci, salut déjà. La 17e édition du Tour cycliste du Rwanda s'était lancée aujourd'hui de Kigali. Aldo Talieu, le Belge, premier maillot jaune, victoire sur le prologue. Mais on parle moins de sport que du contexte, le conflit à l'est de la RDC. À partir de mercredi, le peloton du Tour du Rwanda passera 3 jours tout près de la frontière congolaise, à quelques kilomètres des villes prises par le M23, le groupe armé soutenu par le Rwanda. Ce contexte a pu faire craindre une annulation du Tour du Rwanda, mais surtout des premiers championnats du monde sur le sol africain, prévus en septembre, au Rwanda, justement. Tout en démentant les rumeurs de délocalisation, l'Union cycliste internationale disait fin janvier suivre de près l'évolution de la situation. Et ce dimanche, son président David Lapartien était en visite officielle à Kigali. Il se montre, comme il le dit au micro de Thomas de Saint-Léger, très confiant désormais sur le maintien des championnats du monde dans ces conditions initiales.
Nous, on n'a pas de doute sur le fait que les championnats du monde vont se tenir au mois de septembre. Et je crois que le Tour du Rwanda donnera finalement cette confirmation que le pays est sécurisé et donc qu'il n'y a pas de risque pour ces championnats du monde. Donc c'est aussi un message important. Finalement, c'est bien que cette épreuve se déroule maintenant. Ça va permettre de montrer, au-delà des polémiques qu'ont pu lancer certains, que ce championnat du monde, effectivement, aura bien lieu. Nous y travaillons depuis très longtemps. L'UCI et le gouvernement rwandais.
Alors, il y a la question de la sécurité, il y a aussi forcément une question éthique qui peut se poser. Est-ce que vous, ça fait partie des réflexions au niveau de l'UCI ?
Naturellement, l'éthique est toujours un sujet majeur pour nous. Mais moi, je laisse le soin aux gouvernants de régler les sujets. Et on voit qu'il y a des discussions en cours. Et naturellement, l'UCI, mais comme le mouvement sportif, appel à la désescalade, appel à la paix, c'est notre rôle. Et on est un outil d'ailleurs au service de la paix. C'est comme ça que De Coubertin a voulu les Jeux Olympiques et le mouvement olympique. Nous sommes cet outil, mais nous veillons à 2-3 choses. 1, notre autonomie. Nous prenons nos décisions de manière autonome. 2, nous sommes politiquement neutres. Ça n'empêche pas d'avoir un avis, parfois sur des sujets qui pourraient déraper, d'émettre un avis ou de reconsidérer certaines positions. Mais là, aujourd'hui, très clairement, les conditions sont remplies pour que ces championnats du monde se déroulent.
Alors, bien avant ces questions autour du conflit à l'est de la RDC, il y avait eu de premiers signaux un peu inquiétants concernant ces mondiaux, de fédérations qui disaient ne pas vouloir envoyer de délégations complètes, mettant en avant le coût du déplacement, l'altitude, la difficulté du parcours. Est-ce que vous avez des échanges avec ces fédérations ? Est-ce que vous avez envie de leur dire il faut y aller, c'est historique ?
Évidemment, on souhaite que toutes nos fédérations viennent. C'était la fédération belge notamment qui avait émis quelques commentaires qui étaient totalement déplacés, puisque on parlait même d'une relocalisation en Suisse, sans que nous-mêmes, UCI, n'ayons eu une quelconque discussion, ni même n'ayons pensé à ça. Et donc j'ai dit au président de la fédération belge que les propos de sa fédération étaient déplacés à ce sujet. Mais c'est une grande fédération cycliste, il y a des immenses athlètes, et on espère bien sûr que tout le monde, tous vont être là. Le circuit est aussi très difficile et exigeant. On sait par exemple que Pogacar ou Vingegaard ont déjà confirmé qu'ils allaient faire les championnats du monde. Donc on va avoir une course assurément du plus grand niveau. Et on a avec nous aujourd'hui le président de la Confédération africaine. L'objectif, il est aussi que les 54 nations africaines soient ici présentes, y compris naturellement une équipe de la République démocratique du Congo. Tout le monde a sa place au championnat du monde. Et il y a quelques fédérations qui, pour des questions parfois de coûts aussi, ne peuvent pas amener une délégation complète. Nous pensons, nous, que ça va être des championnats totalement uniques parce que je pense qu'on n'aura jamais vu autant de monde dans un championnat du monde. Il y aura une ferveur populaire extraordinaire. C'est l'un des championnats du monde les plus difficiles de l'histoire par son tracé. Donc, c'est très exigeant, mais assurément, ça va couronner les plus grands athlètes mondiaux chez les femmes, chez les hommes, chez les juniors, les moins de 23. Donc oui, j'invite toutes nos fédérations à venir et à participer à ces championnats du monde. On espère une centaine de pays.
David Lapartient, le président français de l'Union cycliste internationale, au micro de Thomas de Saint-Légy.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Mondial Sport, le foot féminin en Afrique, troisième de la CAN en 2014, mondialiste l'année suivante. La Côte d'Ivoire cherche à se relancer, elle ne verra pas la prochaine CAN au Maroc. Maroc, pays qui a énormément progressé grâce à la présence du français Renal Pedros sur son banc. Finale de la CAN en 2022, huitième de finale du Mondial en 2023, c'est spectaculaire. Renal Pedros tout juste nommé, justement à la tête des éléphants. On va l'entendre dans quelques instants dans Mondial Sport, mais d'abord, rappelez que Tigida Diaby, future internationale sénégalaise, gardienne de but, est avec nous. Karim Baldé, également notre consultant. Tigida Diaby, le Maroc, ça fait partie des pays qu'il faut absolument copier, tout comme l'Afrique du Sud, qui l'avait battu en finale de la dernière CAN, des pays qui sont allés contester la domination du Nigeria, qui était un peu seul au monde, en tout cas seul en Afrique. Maroc, Afrique du Sud, c'est les modèles absolument à suivre pour le Sénégal comme pour les autres.
Oui, alors pour moi, ça reste des nations qui ont un football féminin très développé. Et moi, je ne dirais pas le mot suivre, mais je dirais qu'il faudrait un petit peu s'inspirer de ces nations-là.
Il faut s'inspirer de ces deux pays, Tigida Diaby et puis Karim Baldé également qui est avec nous, qui lève la main pour réagir. Maroc, Afrique du Sud ont montré la voie à suivre pour les pays francophones dont on disait, parce qu'on peut aussi citer la Zambie qui progresse pas mal, et les pays francophones ont peut-être un petit train de retard et il y a des modèles à suivre.
Effectivement, et dans les deux cas, notamment dans le cas marocain, il y a eu une implication étatique très très forte au Maroc, et ça me fait penser à ce que disait Nasser Larguet au quotidien Le Monde il y a quelques mois, en disant que lui qui a été DTN, donc directeur technique national du Maroc, quand il arrive en 2014, il n'y avait rien. Et pour vous dire à quel point le football féminin n'était pas considéré au Maroc, il disait qu'il y avait une commission, c'était en même temps que la commission futsal, beach soccer et foot féminin, tout ça était un peu mélangé. Il disait que le sujet foot féminin arrivait toujours en dernier et qu'il y a eu une prise de conscience, notamment de la fédération marocaine dans les années 2010 pour vraiment booster le football féminin au niveau des clubs, et on le voit avec la SFAR notamment.
Parce que ce sont deux pays qui ont aussi été performants en club, l'Afrique du Sud et le Maroc, en gagnant des titres continentaux.
Exactement, la SFAR, et puis dans le cas de l'Afrique du Sud avec les Mamelodi Sundowns, hein, les ladies du célèbre club sud-africain, qui ont porté justement le football de club également. Et c'est pour ça que prendre des sélectionneurs comme Renal Pedros pour la Côte d'Ivoire, c'est très bien. Mais après, il faut structurer le football de club absolument pour avoir un vivier dans la formation pour ensuite développer l'équipe nationale.
Puisqu'on a entendu qu'au niveau du terrain, de la réalité du quotidien des footballeuses tout à l'heure, c'est assez compliqué en Côte d'Ivoire. Mais donc, le sélectionneur français Renal Pedros, également champion d'Europe en club avec l'Olympique Lyonnais, un grand nom du football féminin, lui qui a porté le Maroc jusqu'en finale de la CAN et en huitième de finale du Mondial. Et donc, désormais sur le banc des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et il est au micro de Youen Gourly.
Pourquoi vous avez accepté ce job ?
Je savais très bien que c'est un travail qui allait ressembler à ce qu'on avait fait au Maroc. Parce que chez les féminines, il y a souvent beaucoup de travail dans les fédérations. Et ça prouve aussi que ce qu'on a fait avec le Maroc, ça a été regardé, ça a été apprécié. Et donc, il y a aussi des fédérations qui avaient envie de redonner un nouvel élan à leur équipe féminine. Donc voilà, ça s'est fait, je dirais pas tout naturellement, parce qu'après il y a eu des discussions, mais les objectifs étaient et les discours étaient clairs. Le football féminin ivoirien devait retrouver des couleurs, devait travailler pour se qualifier et avoir des objectifs importants. Donc voilà, ça faisait partie aussi de notre ADN avec le staff. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord et on a accepté. Et puis voilà, aujourd'hui, on est là.
Est-ce qu'il y a eu vous en avez parlé, il y a eu un effet Cannes. Le fait aussi que voilà, la Côte d'Ivoire remporte l'année dernière, organise la Cannes. Ça donne envie de venir, justement?
Ce qui donne envie, c'est le discours que les dirigeants ont. Si le discours n'est pas très positif, ou voilà, c'est différent. Mais là, c'était clair. Hein, je veux dire, l'objectif, c'est que le foot féminin redevienne important et redevienne parmi les meilleures nations africaines. Après, le fait que les A aient gagné la CAN, c'est un plus. C'est une motivation, c'est un exemple, c'est voilà, c'est toutes ces choses-là. Et puis ça fait rêver, il faut rêver dans le football. Et ces jeunes joueuses, elles ont le droit de rêver comme les autres. Donc si on leur donne les moyens de le faire, pourquoi pas. Et en tout cas, on va travailler pour avoir les meilleurs résultats possibles et puis les emmener le plus haut possible. Et puis déjà se qualifier pour la CAN et puis après on verra bien.
On a l'impression que le chantier est assez vaste, quand même, elles ne se sont pas qualifiées pour la CAN. Et puis, on a des joueuses qui se plaignent régulièrement de leurs conditions à juste titre, je pense. Est-ce que vous avez déjà pu voir un petit peu ces grandes lignes, au moins ?
La sélection, ça doit être une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire qu'il y a le quotidien, il est parfois difficile, il est parfois contraignant, il est parfois magnifique. Mais la fédération et la sélection, ça doit être une bouffée d'oxygène pour ces joueuses, ça doit être un objectif supplémentaire. Il n'y a rien de plus haut et plus fort que la sélection et ça doit le redevenir. Sur les 3-4 dernières CAN, ils se sont pas qualifiés, ils n'ont pas été au JO, ils n'ont pas fait de Coupe du Monde. Donc voilà, ça prouve que le chantier est important. Vous savez, quand vous jouez sur des synthétiques délabrés en championnat, ça favorise pas le football, ça favorise pas le jeu. Donc peut-être améliorer d'abord ses conditions de jeu. Si les joueuses, elles voient que on s'intéresse à elles, elles voient que les clubs aussi, je pense que ça va faire une boule de neige et puis elles vont progresser plus rapidement, elles seront en confiance plus rapidement et puis elles auront des résultats et donc ça c'est important.
Reynald Pedros, nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire féminine, l'équipe des éléphantes. On continue un petit peu notre déplacement dans l'Afrique de l'Ouest. Retour au Sénégal avec vous, Tigida Diaby. Donc, on l'espère pour vous, future gardienne des Lions et pourquoi pas dès la prochaine CAN. Est-ce que représenter votre pays en ayant une expérience quand même du très haut niveau européen, comme Reynald Pedros ou comme d'autres de vos coéquipières, ça vous donne une responsabilité. Est-ce qu'en tant que joueuse du haut niveau européen, vous dites si je vais jouer pour le Sénégal, c'est pour tirer vers le haut, aider vraiment le développement du foot féminin au Sénégal?
Ah oui, alors là, totalement, parce que du coup, le football féminin européen a un temps d'avance sur le football féminin en Afrique. Donc oui, voilà, pour ma part, moi, ça serait en fait d'apporter toute mon expérience, tout mon professionnalisme que j'ai pu apprendre étant formé, par exemple, au Paris Saint-Germain et de pouvoir en fait les mener le plus haut possible. Et
ça peut passer par quoi, Tigida Diaby? Ça va être des discussions. Vous avez 32 ans, c'est ça? Donc, vous avez quand même
Pardon?
Vous avez quel âge, pardon? Je vous ai vieilli, pardon.
Ah oui, j'ai 27 ans dans un mois.
Eh ben, c'est la même chose à 5 ans près, pardon. Non, c'est parce que j'ai vu le chiffre 32, pardon, aux côtés de votre club sur Instagram, c'est pour ça.
Ah
donc,
oui, c'est ma mère 32.
Voilà, c'est pour ça. Alors, vous voyez, je me suis embrouillé dans mes fiches. Donc, vous avez 27 ans, mais c'est quand même une expérience. Vous n'êtes pas exactement au début de votre carrière. Donc, vous allez parler aux plus jeunes, vous allez échanger. L'idée, c'est de pas de rester entre binationales, j'imagine. C'est aussi, comment ça peut se passer concrètement?
Alors, comment ça se passe, c'est que comme vous venez de dire juste avant, c'est en fait de pas rester avec les binationaux. Il faut vraiment se mélanger avec tout le monde. Il faut pas en fait surtout créer de différence avec les personnes qui peuvent être nées en Europe ou celles qui sont nées directement au pays. Il faut vraiment avoir un comportement neutre avec toutes les personnes et ne pas en fait privilégier d'autres joueuses à d'autres, en fait. Donc, c'est pas évident, mais il faut réussir, en fait, à être aligné avec tout le monde. Et c'est avec le discours, c'est avec une attitude irréprochable, c'est avec certaines manières, certaines choses que je vais pouvoir faire, que j'ai pu apprendre en Europe, qu'elles n'ont peut-être pas pu avoir appris en Afrique.
Est-ce que le fait donc de voir Renal Pedros, qui, pas très loin du PSG, à Lyon, a gagné la Ligue des Champions, le sélectionneur champion du monde avec l'Espagne en 2023, il est désormais sur le banc du Maroc à la place de Renal Pedros. Vraiment, l'Europe vient s'intéresser et vient apporter son expertise à l'Afrique, ça c'est quelque chose que vous sentez. Vous sentez que même peut-être chez d'autres joueuses d'origine africaine dans le championnat de France ou le championnat luxembourgeois ou ailleurs en Europe, vous sentez que maintenant on commence à avoir envie d'aller en Afrique. On le prend au sérieux ce football féminin africain.
Ah oui, complètement. Moi complètement, et encore jusqu'à aujourd'hui, je le vois encore. En ce moment, c'est ce qui donne en fait envie, c'est que des années en arrière, en fait, il n'y avait pas autant l'accessibilité, en fait, de pouvoir avoir un contact, en fait, avec la sélection, que ce soit du coach ou d'un membre de la fédération. Et on avait l'impression, en fait, nous, d'un avis extérieur, que les portes étaient directement fermées et que maintenant, en fait, ça a tellement évolué que avec les réseaux sociaux, avec les médias, avec la télévision, du coup, ça a complètement fait changer d'avis à pas mal de personnes qui, depuis déjà des années, avaient cette envie de rejoindre une sélection africaine, mais qui n'osaient pas en fait franchir le pas parce qu'ils n'avaient pas de solution pour pouvoir y accéder en fait.
Karim Baldé.
Ouais, c'est vrai que c'est très important la crédibilité du projet. Je parlais tout à l'heure du cas d'une autre gardienne, Chloé Ngazi. C'est vrai que cette crédibilité-là est extrêmement capitale pour inciter les joueuses. On le voit aussi beaucoup dans le football masculin. Moi, je me souviens quand Abdou Diallo, par exemple, avait rejoint la sélection sénégalaise. Lui, c'était plus une question culturelle. Il s'était approprié sa culture en allant justement sur place. Mais après, quand il voit les structures, les infrastructures en place, forcément, ça donne envie parce que un joueur ou une joueuse a envie de gagner des titres et d'être compétitif. Et quand une fédération arrive à apporter la preuve qu'il y ait justement toute cette structure-là mise en place, et ben forcément la joueuse ou le joueur, hein, c'est pareil de toute façon, va se dire bah oui, pourquoi pas tenter la CAN, alors qu'en équipe de France, par exemple, dans le cas des binationales françaises et d'un pays africain, et ben parfois l'horizon peut être un petit peu bouché.
Il y a quand même un petit bémol, j'en reviens à mon introduction, ce calendrier n'est pas toujours lisible.
Oh,
je remonte encore un petit peu en arrière pour rappeler que lors du report des compétitions durant le Covid, il me semble que la CAN 2020 était complètement passée.
Supprimée. Qui est passée à l'os.
On l'a jamais rattrapée par la manche, celle-ci.
Serait important pour le foot masculin d'ailleurs.
Exactement. La CAN 2024, donc a finalement se joue en 2025. Elle rentre en collision un peu avec la 2026, sachant que c'est en plus le même pays, donc ça c'est pas forcément facile à suivre. Ça c'est quand même des choses, d'un point de vue organisationnel, que la CAF devra régler, Karim Baldé.
Ah bah oui, et ça c'est un problème global de la Confédération africaine de football, chez les femmes comme chez les hommes, cette illisibilité du calendrier. On peut parler du Tchad aussi par exemple, hein, qui aurait dû avoir lieu en ce moment même au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, qui a été reporté au mois d'août. On n'a pas de visibilité à plus de 6 mois. Et ça, c'est quand même extrêmement problématique, pour à la fois pour les sélections, pour qu'elles puissent se préparer au mieux, et puis pour les joueurs et les joueuses qui veulent rejoindre ces sélections, et puis également pour les diffuseurs, pour les sponsors, etc. etc. Donc, hormis la CAN masculine, et encore, on a vu des reports ces derniers temps pour différentes raisons, à un moment donné, la CAF doit absolument, et je veux le dire à l'antenne, elle doit faire un calendrier à plus d'un an. L'UEFA fait des calendriers sur 5 à 10 ans, la FIFA aussi, la CONMEBOL aussi en Amérique du Sud, donc je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas en Afrique et on est censé pouvoir le faire. Et je pense qu'on a suffisamment, on a suffisamment de connaissances et d'intelligence pour pouvoir faire un calendrier sur 5 ans. Voilà.
Tigui Dadiaby, avant de vous quitter, on vous souhaite donc de rejoindre la tanière des Lions du Sénégal, ça semble en bonne voie. Le groupe pour la prochaine CAN, il est quand même très relevé, hein, cette poule. Vous avez le pays hôte, la Zambie, deux mondialistes, et puis la RDC qui va jouer crânement sa chance, sachant que le TP Mazembe est champion d'Afrique du côté de la Ligue des Champions. Tigui Dadiaby, donc cette CAN, vous l'attendez avec impatience en juillet prochain?
Ah oui, avec impatience. J'y pense très souvent. Je me dis qu'il faut quand même se préparer à d'éventuelles possibilités d'être appelé ou non. Et même si par X raisons, je ne serai pas appelé pour cette prochaine CAN, je suivrai cette CAN du début à la fin et je soutiendrai bah, les Lyon hein, de la Teranga, tout simplement, et que j'espère qu'elles feront un très beau parcours.
Et pourquoi pas avec vous. Merci beaucoup, Tigida Diaby, donc gardienne de but, peut-être bientôt gardienne portière du Sénégal, de 27 ans et non pas de 32 ans, que ce soit bien clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Mondial Sport. Allez, on va se quitter en parlant des Sud-Soudanaises plutôt, l'équipe nationale de foot féminine, les Bright Starlets. Elles ont affronté l'Algérie en match aller des qualifications pour la CAN féminine ce mercredi 19. Elles ont perdu 5-0, mais cette défaite n'a pas franchement entamé leur enthousiasme, car le foot féminin se développe dans le plus jeune pays au monde, devenu indépendant en 2011, qui a traversé pas mal de difficultés. Le foot pour les femmes au Soudan du Sud, c'est une façon d'écrire une autre histoire dans ce pays. Florence Mieto.
Sur la pelouse bien verte du stade national de Djouba, les Bright Starlets s'entraînent sous une chaleur accablante. L'équipe nationale féminine de foot du Soudan du Sud se prépare pour son match aller contre l'Algérie dans ce stade entièrement rénové et inauguré en juin 2024. Victor Lawrence Loal, le secrétaire général de l'Association nationale de foot du Soudan du Sud, vante les progrès effectués pour développer le foot féminin dans le pays. Avec 9 équipes féminines évoluant dans la capitale et plus d'une vingtaine dans les provinces, des joueuses de talent ont émergé et ont rejoint l'équipe nationale.
L'équipe a beaucoup progressé et peut donner de bons résultats. Nous jouons contre l'Algérie, nous savons que c'est une excellente équipe, mais nous voulons montrer au monde que l'équipe féminine du Soudan du Sud existe.
Voir l'équipe nationale féminine s'entraîner pour les qualificatifs de la CAN est source de joie pour Hélène Terceau, en charge du développement du foot féminin au sein de l'Association nationale. Car à 70 ans passés, elle a connu une époque, les années 1960, où jouer au foot pour une fille sud-soudanaise était tout simplement interdit.
J'ai joué pendant presque 5 ans. Je m'entraînais avec les garçons. C'est pour ça que mes frères disaient « Tu te comportes comme un homme, mais tu n'es pas un homme, tu es une femme, donc tu ne dois pas jouer au foot. »
Si ses frères ont eu raison de sa passion et l'ont forcé à arrêter de jouer au foot, elle constate une évolution des mentalités au Soudan du Sud.
Si c'était aujourd'hui, j'aurais pu continuer à jouer. Les normes traditionnelles ne sont pas aussi strictes, parce que certains parents comprennent le rôle positif du foot. Dans notre pays, nous disons que le foot est favorable à la paix. Et si vous voulez la paix, il faut impliquer les hommes et les femmes.
L'hymne national sud-soudanais a retenti alors que les gradins du stade national de Djouba sont encore clairsemés ce mercredi 19 février. Les supporters des Bright Starlets se sont agglutinés dans la seule tribune ombragée et encouragent leur équipe, mais assez vite, les Algériennes prennent le dessus. Un premier but est inscrit à la 20e minute et 4 autres vont suivre. Contrairement à d'autres supporters qui n'hésitent pas à vilipender leur équipe, Pita Tabita, 24 ans, ancienne joueuse, se réjouit de ce match.
Je suis vraiment très heureuse en tant que sud-soudanaise de voir mes collègues jouer au foot. Et j'aime voir les Algériennes jouer parce qu'elles sont bien entraînées. Elles sont fortes. Elles jouent comme des hommes. Je suis très fière des Algériennes.
La jeune supportrice avait dû fuir et se réfugier en Ouganda lorsque la guerre civile a éclaté au Soudan du Sud en 2013.
Tous les jeunes du Soudan du Sud devraient faire du foot ou du basket pour se débarrasser du stress de la guerre.
La capitaine des Bright Starlets, Amy Lassou, est l'une des rares footballeuses sud-soudanaises professionnelles. Elle joue actuellement dans un club lituanien.
J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue, j'ai donc pu poursuivre mon rêve. Venant d'un pays où peu de filles vont loin dans le sport, je pense que je peux être un bel exemple.
Esther Louis, 20 ans, attaquante de l'équipe nationale féminine, joue au foot depuis l'âge de 12 ans et milite pour que le foot féminin change l'histoire des femmes au Soudan du Sud.
Avant, nous n'avions pas le droit de jouer, mais maintenant, partout, il y a des parents qui amènent leurs filles dans les académies. J'ai vu ces petites filles qui s'intéressent au foot, c'est vraiment nouveau.
Et l'Association nationale organise des tournois d'équipes mixtes dans les écoles du pays pour favoriser la participation des filles. Florence Mieto, Djouba, RFI.
L'importance du foot féminin au Soudan du Sud. Magnifique reportage pour refermer ce Mondial Sport. Merci Olivier Roux à la réalisation, à C'est Tout, Samaké à la préparation, Karim Baldé à la participation. Mondial Sport revient la semaine prochaine et demain, Radio Foot. Excellente soirée à l'écoute de RFI.